Philippe Nanzer.
Le PSG s'est adjugé la première Ligue des champions de son histoire ce samedi soir à Munich. En finale, les Parisiens ont battu l'Inter Milan sur le score sans appel de 5-0. Et ce dimanche après-midi, place à la finale de la Coupe de Suisse. Ce sera dès 14h entre Bienne et Bâle. Un match qui sera bien entendu à suivre dans Sport Première sur RTS Première et avec les images sur RTS 2. La paix n'est pas pour demain à Gaza. Le Hamas a remis aux médiateurs internationaux sa réponse à la proposition américaine de trêve dans ce territoire palestinien. Et à la lecture de cette réponse, l'émissaire américain a estimé que la réponse palestinienne était, je cite, « totalement inacceptable ». Inacceptable parce que, même si le Hamas a répondu positivement à la proposition américaine, il a réitéré sa demande d'un arrêt permanent des hostilités et d'un retrait des troupes israéliennes du territoire côtier. Le Hamas qui a également demandé des modifications qu'il n'a pas détaillées. La vallée du Lechental respire un peu mieux. Dans l'ensemble, la situation est maîtrisée au niveau du lac qui s'est créé à Blatten et au niveau du barrage de Verden en aval. Il est toutefois encore trop tôt pour lever l'alerte, selon les autorités valaisannes. Et il est toujours difficile de dire quand il sera possible pour les différentes équipes de spécialistes, de géologues ainsi que les troupes de l'armée d'intervenir sur place. Encore une médaille suisse au championnat d'Europe de gymnastique artistique ce samedi soir à Leipzig. Le Zurichois Jan Raubal a terminé deuxième aux barres parallèles derrière l'Allemand Nils Dunkel. Jan Raubal qui avait déjà remporté l'argent mardi avec la Suisse dans le concours par équipe. Du cyclisme avec un véritable coup de théâtre ce samedi sur le Tour d'Italie. Simon Yates a profité de l'avant-dernière étape pour prendre la tête du classement général à la veille de l'arrivée à Rome. Le Britannique a profité du marquage entre Isaac Del Toro et Richard Carapaz pour leur fausser compagnie dans le col de Finestre. L'étape a été remportée à Sestrière par l'Australien Chris Harper. Tennis, ce samedi, le numéro 1 mondial Jannik Sinner et son illustre prédécesseur sur le trône mondial, à savoir Novak Djokovic, se sont tous les deux qualifiés en 3-7 pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Et chez les dames, la lauréate de l'Open d'Australie, Madison Keys, a également gagné son billet pour les huitièmes de finale en battant sa compatriote Sofia Kenin et après avoir écarté 3 balles de match. Encore du soleil et encore des températures qui dépassent par endroits les 30 degrés, c'est le menu météo de ce dimanche. Toutefois, en seconde partie de journée, il faudra faire avec quelques averses et quelques orages qui seront possibles, principalement sur des reliefs, puis peut-être ensuite en plaine. Et lundi, le thermomètre va redescendre aux alentours de 20 degrés avec un ciel nuageux et des risques d'averses dès le matin.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n'raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch. Retrouvez l'événement qui décoiffe dans le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Du son, de la radio, la nuit sur RTS Première.
Dis pourquoi ? L'émission qui répond aux grandes questions de l'humanité en toute modestie. Lucas Torrent.
Bonjour, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h scrupuleusement en direct pour parler du tennis. Nous parlons tennis toute cette semaine. Pourquoi ce sport est-il populaire? Pourquoi ce sport est-il si médiatique? Et hier, si on a parlé des champions, aujourd'hui nous parlerons des championnes avec notre experte de la semaine, Muriel Magellan. Dans une vingtaine de minutes, si je ne m'étouffe pas, Céline Auclin, qui se pose beaucoup de questions, mais elle a aussi beaucoup de réponses. Et dans une quarantaine de minutes, une chronique sur, comme on parle du tennis toute la semaine, on s'est dit avec Nicole Fontana, attachée de production, que les autres sports de raquettes seraient jaloux et que s'ils étaient jaloux, ils seraient tristes. Et si c'était triste, ils allaient pleurer. Puis s'ils pleurent, on allait aussi pleurer. Puis on ne passerait pas une bonne semaine d'émission. Donc on vous présente un autre sport de raquettes dans une quarantaine de minutes. Et aujourd'hui, pour nous, subjectivement, c'est le vrai roi des sports de raquettes. Vous verrez qui c'est. C'est dans 40 minutes. Et si on a le temps, on vous lira un autre bout de Maupassant qui avait écrit un éditorial dans un journal parce qu'il déteste les raquettes. Je trouve ça hyper moche. Guy de Maupassant, il y a pour 40 minutes de lecture, il déteste le tennis et les raquettes. C'est assez rafraîchissant, mais oui, il était comme ça. Et ça, c'est chouette. Mais nous débutons cette émission par une modeste fiction de notre conception. Dans la galaxie du pneu, il existe une planète qui abrite la vie. C'est miraculeux. Une autre forme de vie intelligente, oui, les voici, ce sont les orguiens. Ils ressemblent à des boules de mucus qui se déplacent en roulant sur eux-mêmes et peuvent faire pousser des pseudopodes pour interagir avec le monde. Ils sont fascinants. Encore plus fascinant, le soir, tous les orguiens d'un même clan fusionnent en une masse palpitante et collante pour partager nutriments, informations, mais aussi des histoires. Faut savoir que les orguiens n'ont pas de religion à proprement parler, mais ils ont ce qu'on pourrait appeler des grands schémas narratifs. C'est-à-dire qu'ils ont des histoires particulières qui ont une place importante. Nous, on appellerait ça des mythes, eux, ils appellent ça des schvlergls. Parmi ces schvlergls, un les terrifie. C'est l'arc narratif où des êtres gigantesques et grotesques, à l'aide d'outils en forme de cuillère géante, se baissent pour ramasser des orguiens, pauvres boules, et les frappent avec les cuillères pour les propulser vers un autre géant qui, à son tour, les frappe en retour et ils font ça. Puis après, ils crient des chiffres comme 15, 30, ça les effraie. Et le pire, c'est que non content de les frapper encore et encore, ces géants, il les envoie par-dessus une grande structure en fibre d'une plante inconnue. Et parfois, les orguiens, ils échouent dans cet obstacle et ils tombent sur le sol. Puis là, il y a des jeunes géants qui les ramassent puis qui courent. C'est horrible, il y a des lignes. C'est des cauchemars. Les plus grands penseurs orguiens, ils savent pas vraiment ce que ça représente. Hein, c'est un espèce de mythe qu'ils ont. Les plus grands penseurs orguiens, comme Soxplat ou Kanxte, estime qu'il s'agit d'une réminiscence, écoutez ça, d'une réminiscence d'une pratique ancestrale d'une autre civilisation relayée par les rayons cosmiques. C'est théorique. Les orguiens, ils savent pas si c'est ça, mais en tout cas, ce qu'ils savent, c'est que ça leur fait peur. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And she said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat.
we could dance all night.
Nice to meet you, le chanteur anglais Miles Smith sur RTS Première. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et nous parlons du tennis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette activité? Pourquoi c'est si connu? Pourquoi est-ce que la balle est jaune? Bon, on va pas répondre à cette question malheureusement, parce que je viens d'y penser. Mais en tout cas, l'experte de la semaine nous explique plein d'autres choses. C'est Muriel Magellan, elle en fait plein de choses dans la vie. Elle est écrivaine, elle est scénariste, elle est réalisatrice. Elle a notamment réalisé le film La Page Blanche avec Sarah Giraudot. Mais elle a écrit un livre plus personnel, ou personnel, mettons ça comme ça, qui s'appelle Éloge du tennis, où elle crie son amour de ce sport. Et elle explique aussi qu'elle y joue beaucoup, même un peu trop. C'est édition Payot et Rivage. Et c'est donc elle qui nous guide en tant qu'experte toute cette semaine dans le tennis. Hier, on a fait les grands tennismans, aujourd'hui les grandes tenniswomen. Pourquoi sont-elles connues? Qu'est-ce qu'elles ont amené? Est-ce qu'il y a des matchs féminins cultes? Nous verrons cela jusqu'à 15h. Et la question du jour, eh bien, c'est la question classique des jours fériés au 078 206 73 32. Et ces fériés, vous faites quoi? Voilà. Est-ce que vous travaillez quand même? Ou alors, et puis alors, on s'est dit, alors les gens qui, le jour férié de la semaine sur le tennis, sont en train de faire un tennis. Ouh, alors là, on leur donne 10 points, 10 pourquoi. À quoi ça sert les points, 10 pourquoi? Si vous avez 500 points, 10 pourquoi, ça vous donne 1 point RTS. Et si vous avez 100 points RTS, vous avez 1 point SSR. Ça fait envie. Donc dites-nous tout ça au 078 206 73 32. Hier, on a entendu ça.
On n'en a pas fini avec ce théâtre-là qui est le terrain de tennis. Il y a un peu comme un jeu d'échecs, hein. D'ailleurs, Nabokov le compare le tennis aux échecs, Pérec aussi, parce que c'est un sport qui demande une infinité de décisions. J'ai beaucoup de choix en fonction de l'adversaire, en fonction de mes points forts, de mes points faibles, en fonction même de, je dirais, de la météo si je joue dehors. Il y a énormément de critères qui vont entrer en jeu à chaque frappe de balle pour décider de l'histoire, du récit du match.
Et par contre, hier, on n'a pas du tout entendu ça.
Je suis la carte, je suis la carte.
C'est la carte.
Wouh ! Muriel Magellan, vous êtes écrivaine, réalisatrice et scénariste. Et vous êtes l'autrice du livre Éloge du tennis, édition Rivage. C'est à la fois autobiographique, c'est à la fois un essai, c'est à la fois une réflexion. Et comme on le disait un autre jour de la semaine, même si on n'est pas très tennis, c'est passionnant. Aujourd'hui, on va parler des femmes dans le tennis. Parce que s'il y a bien des sujets où on peut poser la question « Où sont les femmes ?» et la réponse est un peu problématique, au tennis, heureusement, si on dit « Où sont les femmes ?» eh bien, elles sont bien là, les femmes, au tennis.
Oui. C'est un sport qui s'exprime bien au féminin. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un sport qui est intéressant à regarder, je dirais, quel que soit le genre, mais aussi quel que soit le niveau. Il peut y avoir des matchs d'un suspense fou dans le club du coin de la rue. Vous pouvez rentrer, regarder et tout à coup être pris complètement par la dramaturgie d'un match parce que ce n'est pas seulement la qualité d'exécution qui va être en jeu, mais aussi l'histoire que le match raconte.
Donc là, vous lancez.
Et les femmes, donc.
Oui. Non, pardon, j'allais dire que vous lanciez tout de suite, qui est un peu le gros débat sur les femmes. Donc là, vous le dites, les femmes jouent moins bien.
Non, je voulais. Ça m'a fait penser à cette notion-là, mais j'ai pas dit que les femmes jouent moins bien. Non, les femmes jouent très bien. Elles jouent peut-être de façon moins puissante, mais je pense qu'il y a une différence de niveau en fait entre pas de niveau, pas de style, pas d'exécution des choses, mais la puissance tant physique fait une différence pour moi évidente entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que le numéro un mondial, s'il affronte la numéro un mondiale, va évidemment gagner. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle La bataille des sexes, qui est assez marrant, avec Emma Stone, qui raconte l'affrontement entre Billie Jean King et Bobby Riggs. Bobby Riggs était un joueur presque quinca, ancien champion, qui a mis au défi Billie Jean King, qui était la numéro un américaine, et même mondiale à un moment donné. Pour lui dire affrontons-nous, vous verrez que nous jouons tellement mieux que vous. Bon, la vérité, c'est que lui avait 50 ans, elle était encore en pleine forme, et là, elle l'a battu. Donc, il y a quand même moyen de battre les hommes, mais en termes de puissance, je pense qu'en pleine activité, Sabalenka versus Sinner, même si Sabalenka joue très très fort, je pense qu'elle perd. en réalité, je le trouve pas très intéressant ce débat, parce que le tennis féminin est très beau, puissant, varié, comme celui des hommes. Voilà.
Exactement.
Voilà.
Non mais exactement, mais si j'insiste un peu lourdement, c'est parce que c'est un peu une fixette des hommes de toujours vouloir dire aux femmes vous êtes moins bien payées parce que vous êtes moins fortes. Enfin, il y a aussi un enjeu qui se joue là quand même dans la place des femmes dans le sport et le tennis en particulier.
Là où c'est joyeux pour le tennis, c'est que les femmes se sont battues pour avoir les mêmes primes que les hommes et elles les ont dans les grands chelem. Les femmes ont obtenu ça commence avec Billie Jean King, d'ailleurs. C'est une des premières à demander à ce que la vainqueur féminine gagne autant que le vainqueur masculin. Et elle va l'obtenir. C'est-à-dire qu'à l'US Open, je crois que c'est le premier tournoi qui donne l'égalité des primes entre hommes et femmes. Et puis, Navratilova ensuite, Mauresmo va soutenir la cause auprès de Serena Williams. Maintenant, les quatre tournois du Grand Chelem ont égalité de primes entre hommes et femmes. Pourtant, les femmes ne jouent que de sept gagnants. Donc, certains hommes râlent. Je crois me souvenir que Gilles Simon, un joueur, râlait en disant qu'il trouvait injuste que, puisque les femmes ne jouaient qu'en 2-7 gagnants, alors que les hommes jouaient en 3-7 gagnants en Grand Chelem, il devrait y avoir une différence. Il reste des différences dans certains tournois, si je ne m'abuse, des ATP 500, des ATP 250, ou VTA 250, VTA 500, où là, les différences, il y a des différences de primes. Surtout, je crois que ce qui fait la différence de niveau de vie entre les hommes et les femmes, c'est les sponsors. Voilà, c'est là que les hommes sont beaucoup plus riches que les femmes. Non pas tant dans les primes, finalement, que dans les sponsorings, parce que les sponsors mettent plus d'argent chez Alcaraz que chez Sabalenka.
Dis, pourquoi ?
Sous le soleil exactement, écrit par Serge Gainsbourg. Et c'était pour le téléfilm musical Anna en 1967, interprété par Anna Karina. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce morceau, mais pas tout encore sur le tennis. C'est pour ça qu'on en parle jusqu'à demain 15h. Nous sommes avec Muriel Magellan et on parle tennis, plutôt tennis féminin aujourd'hui au 078 206 73 32. La question n'a pratiquement rien à voir puisque comme nous sommes un jour férié, la question c'est « Hé, vous faites quoi ? Vous travaillez ?» Ou pas. On a reçu un message quand même. Non, parce qu'il fait grand beau, c'est férié évidemment. Bonjour, d'habitude les jours fériés je bosse, mais là je range mon atelier. Émoticône rire. Ça c'est les gens, ils arrivent pas à se relaxer. C'est férié, alors normalement je travaille, mais comme là je travaille pas, je vais travailler pour ranger mon atelier. Mais faites des pauses, reposez-vous, la vie, on n'a qu'une vie, il faut aussi des fois souffler. Enfin en tout cas, bravo de ranger son atelier. Merci pour le message, si vous en avez d'autres, au 078 206 73 32. Et c'est unique, on vous le rappelle, si vous êtes en train de faire un tennis pendant un jour férié, vous gagnez 10 points, dit pourquoi. Mais ça quand même, c'est pas rien, parce qu'avec 100 points, dit pourquoi, on a un point RTS. Avec 500 points RTS, on a un point SSR. Quand même, la route est longue, mais tout grand voyage commence par un premier pas. Voilà, c'est une citation. Qu'est-ce qui se passe à 14h22 ? Bien voici Céline Auclin, elle se pose beaucoup de questions, mais c'est pas grave, elle a aussi beaucoup de réponses.
Parce que...
Pourquoi tu peux avoir un tennis elbow sans faire du tennis ? Ou tennis elbow sans faire du tennis ? Haha, déjà, qu'est-ce qu'un tennis elbow ? Si je traduis littéralement, permettons-nous de l'être de temps à autre, c'est un tennis coude, ou coude du joueur de tennis, que je lis en faisant mes recherches sur Internet. Donc, me dis-je, on devrait, si on voulait être précis, parler de tennisman ou tenniswoman elbow. Mais en raccourci, ça peut se comprendre ainsi et tolérer aussi. Soit, et donc pourquoi nous pouvons avoir un tennis elbow sans pratiquer de sport, et encore moins de tennis ? Parce qu'il s'agit d'une inflammation survenant à la suite d'une utilisation excessive du poignet et du coude, d'où son nom tennis elbow. Nom vulgaire ou commun. Pas difficile d'imaginer qu'à force de taper dans une balle comme un ou une forcené avec sa raquette fermement maintenue dans la main, le joueur ou la joueuse de tennis commence à sentir de légères tensions, puis de véritables tendinites, et finalement terminer avec une épicondylite latérale non scientifique du tennis elbow. Haha, j'ai mal à mon avant-bras. Ça me fait rire, non. Ah, j'ai mal à mon avant-bras. C'est à peu de choses près, c'est cela. Une inflammation des tendons du coude, de la face externe du coude, jusqu'au poignet. Parfois la douleur irradie jusqu'au doigt et à l'autre extrémité, jusqu'à l'épaule. Pourquoi tu peux avoir un tennis elbow sans faire du tennis ? Parce qu'il s'agit d'une lésion de surutilisation survenant à la suite d'une surcharge excentrique du tendon commun, de l'extenseur des doigts et du court extenseur radial du carpe, consécutive à des activités répétitives de l'avant-bras et du coude. Parce que c'est le cas aussi pour des activités professionnelles, telles que les mouvements répétitifs effectués par le personnel en usine, par les employés des abattoirs ou des halles d'acheminement de produits du commerce en ligne. J'ai nommé la boîte avec un grand A. Mais encore, les gestes effectués par les caissières des magasins des grandes surfaces, par les coiffeuses, par les plombiers, par les dentistes, qui tiennent de manière trop serrée leurs pinces et du coup tirent sur les tendons du coude et les enflamment. Faut dire qu'une dent, ça résiste, ça peut. Mais il y a aussi la communauté des musiciens qui est affectée par le tennis elbow. On parle même parfois de la maladie du pianiste, parce qu'il s'agit de TMS, trouble musculo-squelettique qui touche les articulations de la main, du coude et de l'épaule. Et parce que ce sont des douleurs et des maux qui sont toutes et tous liés à des gestes répétitifs, exécutés des milliers de fois chaque jour sous stress et à des cadences accélérées, créant immanquablement des tensions musculaires. Pourquoi tu peux avoir un tennis elbow sans faire du tennis ? Parce que j'ai lu qu'il existait un golf elbow. Là, je marque une pause. Le golf elbow ? Correspond à une tendinopathie des tendons fléchisseurs. Et surtout, je ne terminerai pas ce sujet en tapotant sur mon clavier comme une déterrée à vitesse grand V sans dire pourquoi tu peux avoir un tennis elbow sans faire du tennis. Parce qu'il existe le chroniqueuse elbow. Et ça, c'est non seulement véridique, mais également vérifié.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Ah, il a sa patte. Il est reconnaissable, Bertrand Belin. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui se disent, mais non, c'est comme ça. En tout cas, c'est Bertrand Belin. On le reconnaît et il sort un nouvel album. Et il sera en concert, si vous voulez voir à quoi ça ressemble en live, Bertrand Belin, le 7 juin à la Chaux du Milieu, dans le cadre du festival Corbac. C'était l'inconnu en personne. On ne parle pas du tout d'inconnu aujourd'hui puisque nous parlons des stars féminines du tennis avec Muriel Magellan, qui a donc écrit, ce livre, Éloge du tennis. On la retrouve dans quelques secondes, le temps de lire vos messages au 078 206 73 32. Voilà, c'est fait. On a lu tous vos messages. Qu'est-ce que vous faites en ce jour férié? Non, attendez, on a trouvé une citation de Serena Williams. On s'est dit que, ah mais tiens, est-ce qu'on n'aurait pas, parce que des fois on dit des proverbes, est-ce qu'on n'aurait pas des citations de joueurs joueuses célèbres? Je cite: je dis toujours que si je joue mon meilleur tennis, il est difficile de me battre. Fin de citation. Voilà. On n'est pas tout le temps obligé de dire des trucs polémiques, hein. Quand je joue bien, je joue bien. Voilà. Voilà. Enfin, bref, c'était une citation de Serena Williams. On essaye. 078 206 73 32, c'est un jour férié, qu'est-ce que vous faites? Mais ou continuez de rien faire, ça nous fait plaisir. Pas besoin d'écrire, nous on a des cartouches, on a de la ressource, on est chaud. Et puis en plus, on a notre experte, Muriel Magellan. Elle a fait plein de choses dans la vie, dont ce livre, Éloge du tennis, édition Payot et Rivage. Et hier, elle nous disait qu'il y avait des joueurs masculins qui ont marqué. Je lui pose la question, mais je connais la réponse. Est-ce qu'il y a des joueuses féminines qui ont marqué?
Oui, y a Serena Williams, hein, tout à fait récemment, qui a marqué l'histoire du tennis. Navratilova, Chris Evert, on se souvient de leurs affrontements. Et là aussi, on a la... Vous voyez, vous parliez des noms dont on se souvient, mais les noms dont on se souvient, c'est aussi comme ça une différence de style et de caractère. Chris Evert, c'était fond de cour, attaquante de fond de cour, élégante, placide, versus Navratilova. En plus, à l'époque, c'était le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, même si Navratilova est devenue américaine finalement à, je crois, à ses 40 ans. Qui elle était service volé, un jeu très très musclé, et donc il y avait l'affrontement des styles et des caractères qui a marqué. Serena Williams, par exemple, quand elle était en affrontement avec Sharapova, la joueuse russe d'une beauté folle, qui était mannequin sur énormément de revues, c'était intéressant aussi parce qu'on voyait que se jouaient presque des questions esthétiques aussi entre ces athlètes de très haut niveau. Et puis, c'était beau à voir, en fait. Hein, le tennis féminin est beau à voir. Et le suspense vaut de la même façon que chez les hommes.
Mais c'est vrai qu'avec Serena Williams, il y a dans tous les sports, aussi, si on fait en effet une semaine sur l'histoire de la gym, c'est aussi des questions qui viennent. Il y a cette idée qui est évidemment masculine que le muscle ne sied pas aux femmes et qu'aussi il ne faut pas être grimaçante d'effort. Donc avec Serena Williams, elle a vraiment fait tomber certaines barrières, vous avez l'impression ?
Absolument. Elle n'est pas la première, parce que il y a Navratilova, Mauresmo ont été accusés de virilité presque, hein, quasiment, alors que le tennis a aussi des femmes magnifiques, dont j'ai cité Sharapova, mais ça pouvait être Sabatini aussi. Mais en réalité, on a Serena Williams a fait voler ça en éclats, d'abord parce qu'elle a beaucoup gagné, qu'elle met tout le monde d'accord sur le terrain. Que c'est beau à voir d'un point de vue du match lui-même, et que en plus elle n'a pas cessé de créer des vêtements pour jouer. Sa sœur aussi, hein, Vénus, elles adorent la mode, elles ont ramené des accessoires, elles se sont moquées en fait de ce que la doxa voulait leur imposer. Et en ça, Serena Williams, elle est devenue militante. En plus, c'est une femme noire qui vient d'un milieu extrêmement pauvre. Donc, il y a le film sur son père, la méthode Williams, qui est un très beau film, qui raconte bien hein, toutes ces sœurs qui sont plusieurs jeunes filles, mais ce sont les deux dernières, Serena et Vénus, qu'il veut mettre au tennis à tout prix. Et qui va parvenir à faire grimper, à devenir des femmes puissantes. Ce sont des femmes puissantes aujourd'hui. Hein. Moi, ce que je trouve beau dans le tennis féminin, le tennis n'est pas un sport très politique, en vérité. Il y a peu de figures politiques qui s'engagent. Mais le tennis féminin milite. Comme Mauresmo, qui a fait son coming out à 19 ans, et qui a, comme Navratilova l'avait fait avant, comme Billie Jean qui l'avait fait avant, ça milite, je dirais, de façon extrêmement naturelle. Les femmes noires arrivent, les femmes issues d'un milieu plus populaire, elles obtiennent l'égalité des salaires. Il y a quelque chose qui se fait de façon extrêmement fluide. Mauresmo devient la première entraîneuse d'un numéro un mondial qui était Andy Murray, directrice d'un tournoi du Grand Chelem en ce moment, Roland Garros. Voyez, c'est-à-dire qu'elles accèdent dans une sorte d'évidence, elles deviennent des modèles, tout en n'assenant rien qui pourrait, créer des tensions ridicules. Je suis assez admirative des joueuses.
Et pourquoi pas ?
Yeah.
Blondie avec leur titre de 1980, Call Me, un titre composé par Giorgio Moroder, nous indique Stéphanie Ivanovitch à la programmation musicale. Et puisqu'on dénonce les collègues, c'est Sophia Muller à la technique et à la réalisation de cette émission. Dis pourquoi, on est ensemble une grosse vingtaine de minutes encore. Nous parlons tennis.
C'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions.
Papa, comment on fait les bébés?
Des questions à propos de tout.
Sommes-nous seuls dans l'univers?
Quelquefois il a les réponses, mais pas toujours.
Toute cette semaine, on le disait en début d'émission, puisque nous parlons du sport de raquette, le tennis, on s'est dit, mais les autres sports de raquette vont être jaloux. Subséquemment, Nicole Fontana, chaque jour, est allée chercher un autre sport de raquette. Et on en parle, et aujourd'hui, ce qui est pour moi le roi absolu des sports de raquette, c'est les raquettes de plage. Oui, parce qu'il y a les sports de raquette qui ont des fédérations internationales, toutes rutilantes, qui ont des stars, qui ont du pognon et qui ont des médailles olympiques. Et puis il y a d'autres sports de raquette où c'est juste des gens sur la plage qui s'échangent une balle avec des raquettes en bois un peu cheap, mais quand même vendues trop cher. Et ça fait poc, poc, poc. Et après 15 minutes, on se dit, mais où trouve-t-il la motivation pour faire poc, poc, poc en plein soleil? Alors, est-ce qu'il n'y a rien d'autre à dire? Eh ben non, il y a plein de choses à dire sur les raquettes de plage. Déjà, si on se fait l'avocat de cette activité physique, dire que le but du jeu, c'est faire le plus d'échanges possible, mais pas en faisant des renvois tout mous, en jouant quand même assez virilement ou fémininement. Si c'est des femmes, voyez sur la plage, hein, c'est pas les petits échanges, on se smatche dessus, puis il faut répondre à chaque fois à la balle. Et donc les bons joueurs sont donc à la fois les personnes qui arrivent à renvoyer la balle, mais qui aussi connaissent leur partenaire de jeu pour pas les mettre dans l'embarras, mais qui en même temps savent jusqu'où aller en termes d'intensité pour pouvoir continuer l'échange. Et puis si on réfléchit, c'est quand même une activité sportive, c'est le seul sport de raquette pacifique dans un sens. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a un autre sport de raquette où le but c'est faire le plus d'échanges, à part le badminton sans filet, on fait pouf pouf, c'est vrai. Et ben il y en a voilà. Alors est-ce qu'on là on a tout dit? Le ping-pong, on peut aussi faire le plus d'échanges possible, mais le ping-pong et le badminton, on peut s'affronter, tandis que les raquettes de plage, eh ben on fait des échanges. Est-ce qu'on a tout dit? Non, parce qu'on l'ignorait, mais deux pays dans le monde adorent les raquettes de plage et aiment tellement les raquettes de plage qu'ils ont un nom spécifique. Nous voici au Brésil où ça s'appelle frescobol, je le fais sans accent. Première référence dans le quartier de Copacabana vers 1945. L'étymologie de frescobol est toute simple, selon un article du Monde de 2016. Fresco, alors fresco ça veut dire frais, en argot brésilien ça veut dire aussi gai, mais là on met ça de côté, c'est frais et bol, la balle, balle au frais, parce que les joueurs cherchaient des endroits frais sur la plage pour faire des échanges. Et puis l'autre nation qui aime tellement les raquettes de plage qu'elles ont un nom, c'est Israël, avec matkot, qui veut dire raquette en hébreu. Et le jeu est si populaire que certaines plages de Tel Aviv sont interdites aux matkot pour risque de blessures et de bruit. Aussi en Grèce, il y a des plages interdites. Parce qu'on est là, tranquille au soleil, on se prend une balle dans la tronche, ou on veut lire un livre, puis ça fait toc 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 et ça agace. Et puis là, alors, les raquettes en bois peuvent laisser la place à des raquettes en carbone, qui coûte jusqu'à 200 francs. Votre raquette de plage à 200 balles, franchement, ça fait plaisir. On parle parfois de sport national israélien. Voilà. Et notons quand même, on a dit, c'est un jeu pacifique, d'échange que vous pouvez pimenter votre partie de raquette de plage. Il y a la version où vous reculez petit à petit, avec l'idée d'être le plus loin possible en continuant à réussir à faire des échanges. Ou alors, il y a une variante avec un filet, un truc de jeu, et puis là, ça devient un peu comme du tennis. Mais pour nous, ça, on perd un peu le sel de la raquette de plage.
Oui, elle est belle quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Tu sais qu'elle est belle, tu sais.
Elle est belle quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Belle, quand je la vois au danser le soir. J'aimerais tellement la vie éternelle, toujours belle.
C'est un bon soir, les cours de DSL. Besoin d'être dans le sensationnel.
Elle est venue un jour de pluie dessiner un soleil dans mes nuits les plus sombres. Elle dansait dans mes rêves, elle a mis de la couleur et des nuances à mon nom. Mais la lumière n'est jamais éternelle. Donc pourquoi l'amour le serait? Elle danse toujours dans mes rêves, mais c'est loin le dos tourné.
Pour des filles comme toi, j'en ai fait plein des insomnies. Pour des jours meilleurs, tu sais, j'aurais donné ma vie. Mais là, j'en ai plus trop envie. J'suis perdu dans le vide, bloqué dans la nuit, cassé par les lights de la ville. Oh baby girl, l'humain est vil. Même moi, choisirais l'os. tous, pour soi, un pour tous. J'en ai fini de rêver, je crois qu'il est temps de tailler, d'oser le faire. Car tu sais qu'elle est belle quand je repense à nous. J'ai plus la force de recoller mon cœur que tu brises encore et encore. Je crois qu'il est temps de s'arrêter. Non, je t'aime, ce son est scellé. J'aime bien moins l'odeur de ton parfum.
Je voulais tout, je voulais tout, je voulais tout. Je voulais tout, 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 tout de suite. La vie est courte, courte, donc court très vite. Bisous, sous, sous, sous le bruit de la pluie. On a fait l'amour tout, tout, toute la nuit. Et on s'est quitté pour tout, tout. La vie, sache que je t'aimerai pour toujours. Comme ça, ça c'est dit. Oh, tu voulais ma mort. Ta beauté m'a donné la vie.
Elle est belle quand je repense à nous. Quand je repense à nous. Quand je repense à toi.
Tu sais qu'elle est belle, tu sais.
Elle est belle quand je repense à nous. Quand je repense à nous. Quand je repense à toi.
La jeune voix, Sahel, en duo avec Milly Rose, c'était toujours belle. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Nous parlons tennis toute cette semaine et donc aujourd'hui aussi, c'est logique, on est avec Muriel Magellan. Elle est écrivaine, notamment elle a écrit « Changer le sens des rivières » chez Julliard. Elle avait gagné le prix du Salon du Livre de Genève. Mais là, on le reçoit pour un autre livre, c'est « Éloge du tennis », édition Payot et Rivage. On parle du tennis féminin, on a parlé des pros, parlons maintenant des amatrices. Je lui ai demandé, chez les joueurs de tennis, s'il y avait beaucoup de femmes, une forte proportion de femmes ou non.
On est un tiers de licenciées femmes. On est moins nombreuses à faire de la compétition et à être licenciées. Alors après, jouer, c'est encore une autre histoire. Je ne vois pas de vraie tension dans le tennis amateur entre hommes et femmes. Il y a des différences de prix, de cadeaux. Hein. Ça, c'est vrai. Même en amateur, quand on arrive à un certain... Quand on gagne un tournoi, il y a des fois des sous, d'ailleurs. Et sinon, c'est des cadeaux. C'est toujours marrant à regarder. Et il y a quand même toujours le bouquet de fleurs pour la femme et la bouteille de vin pour le monsieur. Quelquefois, on aimerait bien inverser, quoi. Hein, mais... Ça existe. Il y a une différence de comportement quand même, moi je trouve. J'en parle un tout petit peu dans le livre. J'ai beaucoup de, très honnêtement, de partenaires hommes très, très courtois. Mais il y en a quand même qui ont une sorte de violence comme ça sur le terrain. Et les raquettes sont quand même le plus souvent cassées par les hommes. C'est ça, je l'ai observé, même chez les amateurs. Il y a des femmes qui cassent des raquettes, mais c'est quand même plus rare. Les jets de raquettes, c'est quand même un geste qui reste masculin. Et puis, la gagne, quoi, hein, quelque chose. Je voudrais pas être trop genrée, quand même, la discussion, mais il y a quelquefois une virulence à la gagne que j'observe plus chez les hommes que chez les femmes.
Avec toujours la question de est-ce que c'est génétique ou la société, mais on va pas ouvrir cet immense chapitre.
Voilà. Pour revenir au tenniswoman professionnel, hier chez les hommes, vous me parliez d'un match mythique qui vous a marqué. Vous en avez aussi au tennis féminin ?
Alors, je vais être un peu chauvine pour répondre à votre question. J'ai beaucoup aimé la finale de Garcia Sabalenka sur les Masters féminins. Caroline Garcia, elle sortait d'une période, en fait, où pendant des années, plusieurs années d'affilée, elle était autour de la 50e place mondiale. Elle n'arrivait plus à toucher les sommets. Et puis, c'est passé un événement assez marrant, c'est qu'elle a rejoué en double à Roland-Garros avec Tatiana Mladenovic. Elles étaient très amies toutes jeunes. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire parce que c'est des histoires d'amitié, d'histoires de humaines, en fait. Hein. Elles jouaient beaucoup ensemble en double et puis elles se sont fâchées ou en tout cas, elles se sont éloignées. Et là, elles se retrouvent. Elles jouent en double à Roland-Garros et elles gagnent. Elles gagnent Roland-Garros en double. Ce qui est deux joueuses qui sont au-delà de la 50e place mondiale à ce moment-là. Et ça donne une sorte d'élan à Caroline Garcia qui va se mettre à gagner beaucoup jusqu'à arriver en fin d'année dans les 8 meilleures joueuses du monde et de faire ce tournoi qu'on appelle, je crois pas que ça s'appelle Masters chez les filles, mais enfin c'est l'équivalent, l'affrontement entre les 8 meilleures joueuses du monde qui clôt la saison tennistique. Et gagner ça, c'est quand même énorme. C'est presque comme gagner un grand chelem. Et elle va affronter Sabalenka en finale. Donc elle avance dans cette compétition et elle se retrouve en finale. Ce match a lieu au bout du monde. Et donc c'est à 3h du matin en France. Et moi, je vais mettre mon réveil parce que je veux pas louper ça. Et c'est un moment de grâce absolue, c'est-à-dire que Garcia va jouer son meilleur niveau, le meilleur niveau de sa carrière qu'elle retrouve pas pour l'instant. J'allais dire qu'elle retrouvera pas, ça je ne sais pas parce qu'elle joue encore. Elle le retrouvera peut-être, mais à ce moment-là, elle n'avait jamais touché un tel niveau. Elle a 30 ans ou à ce moment-là et elle gagne contre Sabalenka qui va devenir numéro 1 mondial quelques mois plus tard, quelques trimestres plus tard. Voilà, ça c'est pour moi une belle histoire parce que c'est inattendu. Caroline Garcia est une joueuse qui, par exemple, ce que j'appelle moi de l'indocilité quand même d'une certaine façon, elle a un jeu, c'est un peu ça passe ou ça casse, vous voyez. C'est un tempérament qui attaque tout le temps. Elle attaque toutes les balles. Donc quelquefois, au tennis, on dit temporise, prends ton temps. Elle laisse venir l'adversaire, c'est Gilles Simon qui est tout l'inverse, qui est un joueur qui ne fait que défendre, rappelle dans son livre qui s'appelle Le tennis, c'est un jeu qui rend fou, il rappelle que sur 5 points, il n'y a qu'un seul point gagnant. Les 4 autres sont gagnés par la faute du joueur. Donc il faut conduire le joueur à la faute, au moins 4 points sur 5. Elle fait pas ça, elle attaque, donc elle fait des fautes, et donc elle va quand même, avec ce jeu à pile ou face, remporter ce tournoi qui est son titre majeur.
Muriel Magellan, il y a quand même tout un enjeu sur le corps des femmes qui font du tennis.
Oui. On évoquait le reproche qui pouvait être fait à quelques joueuses. Et c'est vrai que certaines, surtout chez les femmes, ont souffert de grossophobie. Donc Serena Williams, la première, mais aussi Marion Bartoli, qui est une joueuse, notre dernière joueuse française à avoir gagné un grand chelem, a été très attaquée sur son corps, sur la façon, sur sa morphologie, c'est ça qui est fou. Et après, elle avait aussi sa manière très personnelle de jouer au tennis, en répétant par exemple les gestes à blanc, ce que je trouvais assez audacieux. Parce que ça c'est presque un peu fou, de voir quelqu'un avant de recevoir un service. Elle faisait le geste à blanc et l'adversaire en face attendait presque qu'elle finisse de faire le geste à blanc pour servir. Et Bartoli se sentait prête à renvoyer. Mais il y a aussi une joueuse qui joue encore, qui s'appelle Townsend, qui est une américaine, qui est noire américaine, qui est très ronde et qui est pourtant dans les 50 joueuses mondiales. Et c'est vrai que pour ça, le tennis est un sport qui permet à très haut niveau d'avoir des corps différents. Et ça, c'est chez les femmes plus que chez les hommes, mais il y a quand même chez les hommes aussi un joueur qui s'appelle Kotov, qui est un peu rond. Kyrgios, qui a été aussi qui a fait un peu yo-yo en termes de poids, et même je crois Wawrinka au début avait été on lui reprochait son surpoids. Donc mais pourtant ces athlètes sont dans les 100 meilleurs de leur discipline. Donc j'aime ce sport qui permet quand même à des corps différents de venir de s'illustrer et de nous servir de modèle.
Dis pourquoi.
Thank you.
Le groupe Albatros, c'est le titre Monia Monia, qui peut-être vous rappelle quelque chose, vous a rappelé quelque chose, puisque c'est l'original qui a été adapté ensuite par Joe Dassin. Il était une fois nous deux. Voilà, tout à fait.
Way too much on you. I just forgot
les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 1h.